Bonsoir à toutes et à tous, c'est du grain à moudre d'été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ça vous est sûrement déjà arrivé, lors d'un échange SMS ou sur un réseau social quelconque, voilà que vous recevez une danseuse espagnole, un petit pingouin, ou plus ambigu, une pêche. De quoi rester perplexe. Autre situation, alors que vous répondez rapidement par SMS à votre patron, vous terminez machinalement par un petit smiley qui envoie un baiser. Malaise. Cela fait quelques années que ce qu'on appelle les émoticônes ou les émojis sont apparus dans nos échanges par écrit. Mais depuis quelques temps, ils sont devenus omniprésents. À tel point que le très sérieux Oxford Dictionary a élu l'émoji qui rigole avec des larmes de joie, mot de l'année 2015. Et une nouvelle étape vient d'être franchie, 15 jours après le World Emoji Day, un film sort aux États-Unis qui fait de ce petit pictogramme des personnages à part entière. Il sera bientôt en France, rassurez-vous, on lui prédit un bel avenir de blockbuster. Langage ou produit marketing, signe propre à l'ère numérique ou au message en 140 caractères ou enrichissement de nos échanges, parlez-vous émoticône, c'est la question du grain à moudre à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez, sur franceculture.fr. Et quatre invités ce soir pour parler de ce sujet. Ici en studio à Paris, Virginie Bégeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de projet web à la direction du développement numérique d'Arte France. Vous êtes également diplômée du CELSA et je crois que vous aviez consacré un mémoire de M2 à cette question des émoticônes. André Gunther, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire visuelle à l'EHESS et... comme tel, vous vous intéressez évidemment à ce que disent les images et donc à ce que nous disent les émoticônes. Ludovic Houplin, enfin, ici en studio avec nous à Paris, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le créatif de la bande ce soir, puisque vous êtes le fondateur du studio de création H5 et vous avez pensé à un spot publicitaire pour une marque de soda bien connue au logo blanc sur fond rouge qui reprenait justement les émoticônes. Et enfin... par téléphone avec nous. Pierre Altet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences du langage et vous, c'est toute votre thèse que vous avez consacrée à l'utilisation dans les échanges instantanés des émoticônes. Je ne donnerai pas le titre de votre thèse car il est bien compliqué et bien long. Voilà. Merci à tous les quatre d'être là ce soir. Peut-être une première question, une question d'histoire, Virginie Bégeau. D'où viennent-ils ces émoticônes et à quel moment ils ont commencé à envahir nos vies ?
Alors en fait, je pense que il faut un petit peu distinguer les émoticônes des émojis. Les émojis, ça appartient... En général, on dit que les émoticônes, c'est plutôt des images qui illustrent les atmosphères et les émotions. Alors que les émojis, c'est un ensemble qui est à la fois plus vaste et aussi beaucoup plus limité. Parce que la différence, c'est que donc émoji, c'est un mot japonais. Ça a été créé au Japon en 1995. Et la différence, c'est que émoji, ça veut dire caractère et image. Donc c'est à la fois des caractères et des images, ce qui veut dire que c'est des symboles comme par exemple le signe dollar ou le signe euro. Donc il y a tout un processus très technique derrière qui fait qu'en fait les emojis ils sont encodés dans vos ordinateurs. Et concrètement ça veut dire que si on vous envoie un emoji sur n'importe quel terminal téléphonique, tablette, etc., vous allez pouvoir le recevoir à la différence d'une image qu'il faut télécharger et qui n'est pas inclus dans votre ordinateur. Donc ça a été créé en 1995, mais en fait ça a vraiment pris son essor quand Apple a décidé de l'intégrer à son téléphone.
À son clavier, ouais.
Voilà, à son clavier en 2011. Et donc là, ça les a rendus beaucoup plus accessibles parce qu'il suffisait de le changer. C'est assez fort comme geste parce que ça devient, donc les emojis deviennent une sorte d'alphabet. Donc on peut changer de l'anglais au français aux emojis en un clic.
André Gunther, si ça a connu un tel succès, c'est aussi peut-être parce que ça a rencontré un besoin spécifique à ce type d'échange ?
Oui, ça c'est tout à fait évident que on dit beaucoup que l'emoji ou donc l'émoticône son ancêtre typographique hein, qui est pour compléter votre définition donc donc l'émoticône c'est les années 80 82 hein, je crois et c'est donc l'association de caractères typographiques qui existent dans notre alphabet par exemple
les deux points et la parenthèse
un deux points et une parenthèse qui vont pouvoir être lus comme un sourire en se penchant de côté. Donc les émoticônes sont à la fois plus anciens et plus universels, effectivement, alors que les émojis sont sont des univers fermés. Alors, pourquoi est-ce que très rapidement, et à partir du moment où les communications électroniques vont se multiplier, et en particulier à travers Internet, les messageries et les forums, pourquoi est-ce qu'on va chercher à associer ces petites images, ces signes iconiques au langage linguistique, au vocabulaire que nous connaissons bien? On dit souvent que c'est pour réchauffer la communication, hein, c'est-à-dire avec une opposition un peu simpliste, hein, bien sûr, qui voudrait que le langage écrit ait ce côté un peu froid. Mais c'est vrai que, par exemple, on le voit bien dans les usages ensuite, c'est-à-dire que ces petites images, qu'elles soient donc émoticônes ou émojis, on va les utiliser beaucoup plus volontiers dans un caractère de communication personnelle.
Oui, parce qu'on est bien dans un contexte intime de communication, on ne parle pas de littérature là, évidemment, parce
exactement,
que les émotions...
Par exemple, où est-ce qu'on ne trouve pas des émojis? Dans des articles de journaux, dans des rapports scientifiques,
dans
romans,
la littérature.
Et puis pas non plus dans la lettre que vous allez adresser à votre supérieur hiérarchique, probablement.
Oui. Hein, effectivement, ça que la question se pose de plus en plus, enfin, en tout cas, je me l'ai supposé encore récemment, ça dépend évidemment des liens que vous entretenez avec votre supérieur.
Il y a des évolutions, mais voilà, donc l'image, c'est ce petit côté, c'est cette signature personnelle, finalement, qu'on introduit, qu'on ajoute au langage habituel, et voilà, son expansion est absolument formidable, et de ce point de vue-là, on vit vraiment une période qui est extrêmement intéressante sur le plan linguistique et sémiotique.
Bah justement, vous me tendez une perche, Peralté, linguistique et sémiotique. Évidemment, ça fait des émojis, ce qu'on dit là, un objet d'étude, et c'est ce que vous avez entrepris il y a quelque temps déjà. En même temps, on se dit, voilà, une image associée à une idée, à une émotion, c'est presque l'ancêtre de l'écriture, une sorte de hiéroglyphe.
Alors oui, alors déjà peut-être une petite précision pour reculer encore dans le temps, hein. C'est-à-dire qu'on trouve déjà des pictogrammes qui accompagnent des énoncés verbaux dans les toutes premières versions des logiciels de chat dès les années 72 au sein d'un réseau qui se situait dans des universités, notamment l'université de l'Illinois, réseau Plateau, où on trouve déjà des petits pictogrammes très pixelisés qui accompagnent les énoncés. Alors oui, c'est pas quelque chose de nouveau dans le sens où effectivement on a toujours utilisé des pictogrammes pour communiquer dès qu'on a commencé à écrire. Ça a été le premier moyen de communiquer. Par contre, ce qui est nouveau, c'est d'employer ces pictogrammes pour, comme l'ont un petit peu décrit les invités précédemment, pour associer des émotions à des contenus linguistiques, quoi. Ça, c'est tout à fait nouveau, révolutionnaire, et c'est dû, ça conditionne leur succès. Et c'est dû aussi au genre discursif dans lesquels on les trouve et dans lequel elles apparaissent. C'est-à-dire que dès que on se met à parler par chat, c'est-à-dire en fait dès qu'on allie les conditions de spontanéité de l'oral, c'est-à-dire qu'on communique presque comme si on était en face à face, mais on n'est pas en face à face, on est à l'écrit, mais dans une même temporalité, on a besoin d'avoir des supports qu'on a à l'oral avec les gestes, les mimiques, l'intonation, qui sont plus disponibles à l'écrit. Donc pour combler ce manque, on invente immédiatement les émoticônes. Donc c'est vraiment ce rôle-là qu'elles jouent. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'assez novateur et d'assez passionnant à étudier et de tout à fait intéressant.
C'est sûr, et on va évidemment y revenir au cours de cette émission, mais peut-être donner la parole pour finir ce premier tour de table à Ludovic Houplin et pour vous demander, qu'est-ce que vous y trouvez avec votre regard finalement de créatif, de graphiste? Vous avez utilisé, je crois, des émoticônes ou des emojis, non, c'est plutôt des émoticônes, dans un spot de publicité, et dans un spot de publicité qui était à destination du marché chinois. Pourtant, j'ai eu l'occasion de le voir, de voir ce spot, et il est tout à fait accessible, par exemple, avoir un regard occidental. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ces petites têtes jaunes, par exemple, soient universelles?
Alors déjà, justement, cette tête jaune, quand même, je pense qu'elle ne peut pas être inspirée du smiley. Parce qu'à un moment, le smiley, il existait, je pense, 10 à 15 ans avant. Et je peux pas imaginer que les personnes qui ont créé les emojis ou les émoticônes
n'aient pas... Oui, c'est une déclinaison, oui.
Honnêtement, je pense que le personnage principal est clairement une déclinaison du smiley. Après, honnêtement, ils ont créé quand même un vocabulaire pour les emojis, les émoticônes, qui est quand même particulièrement parfaits. C'est-à-dire qu'en gros, ils marchent très bien en tout petit, avec très peu de pixels. Ils ont un sens de la concentration de l'image qui arrive à véhiculer des expressions, des tonalités. En fait, il y a quand même un travail assez important, je pense, graphiquement, pour réussir à faire passer ça sur des toutes petites images. Ça rejoint assez en fait le travail de l'affichage. En gros, on est dans la rue, on voit une affiche verticale et on voit une affiche très efficace. Là, c'est la même chose, sauf que c'est sur un écran de téléphone ou un clavier. Donc en fait, c'est juste une échelle différente. Et par contre, il y a un travail créatif, je pense, qui est relativement important et bien géré, hein, justement, par soit les personnes chez Apple, soit des Japonais, soit des... Voilà, en fait, c'est une continuité, je dirais, du graphisme pur, en fait.
Et est-ce que vous diriez, malgré tout, qu'il y a aussi de la créativité chez ceux qui reçoivent ces émoticônes? C'est-à-dire, il y a aussi une façon de les interpréter? Est-ce qu'on peut jouer là-dessus
Alors, quand vous en parliez tout à l'heure, moi, ça me faisait penser à un moment aussi, il y a un côté très ludique de Rébus, hein, malgré tout. C'est-à-dire qu'on en envoie un, mais on en envoie 10, on fait des associations, on crée un vocabulaire, comme un alphabet avec des lettres, sauf que là, on le fait avec des combinaisons, quoi, en fait.
À tel point que j'ai vu qu'il y avait un jeu télévisé qui allait être créé, où il allait falloir décrypter ce rébus, un jeu télé à base d'émoticônes. Alors, voilà, vous mettez une phrase d'émoticône, il faudra décrypter ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec ça, Virginie Bégeau?
Tout à fait. C'est assez intéressant parce qu'en fait, les émojis sont déjà beaucoup utilisés pour traduire des grands classiques ou des phrases. Il y a Moby Dick, voilà, qui est sorti, qui s'appelle Emoji Dick. Et il y a eu aussi, il y a plusieurs façons d'utiliser les emojis.
Autre grand classique.
La Bible, voilà. Il y a Les Misérables qui ont été résumés assez rapidement avec quelques emojis. Et en fait, il y a des sites. Déjà, il y a Emoji Taurus, donc il y a un clin d'œil à Thésaurus, le dictionnaire anglais, pour pouvoir, chacun peut proposer sa traduction d'une phrase. Il y a To be or not to be, par exemple, qui est traduite en emoji.
Ce qui pose cette question, évidemment, Pierre Altet, est-ce que les émojis sont un enrichissement ou un appauvrissement de la langue? C'est-à-dire que c'est vrai, quand on voit Moby Dick traduit en émoji, alors il faut dire que c'est pas que avec des émojis, il y a quand même du texte toujours, parce que l'émoji tout seul, ça peut pas dire grand-chose. Ça peut, hein, évidemment, on peut envoyer une émotion, mais c'est surtout associé au texte que ça prend tout son sens. Et on pourrait se dire, voilà, Moby Dick en émoji, franchement, c'est vraiment l'appauvrissement de l'intellect et de la langue.
Alors il faut peut-être distinguer deux niveaux, quoi. Si on parle des emojis qui sont utilisés de façon purement iconique, c'est-à-dire qui servent simplement à représenter un objet qui remplace des mots, alors on peut émettre un jugement là-dessus en disant ok, enfin émettre un jugement, en tout cas une peur, en disant oui ok, elles vont remplacer tous nos mots. Cependant, en fait, même dans ce cas-là, c'est très compliqué de ne communiquer, par exemple, qu'avec des emojis. Contrairement un petit peu à ce qui a été dit précédemment, je pense pas du tout que les emojis ce soit l'équivalent d'un alphabet. L'alphabet, les lettres, c'est une graphie et un son. Ça permet un ensemble de combinaisons assez incroyables. Ça permet de dériver une morphologie qui nous permet de fabriquer les temps du passé, les temps du futur, etc. Enfin, c'est quelque chose de très très complexe. Cette complexité-là, on la retrouve pas dans les emojis purement iconiques qui associent en fait une image à un objet. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut dire. Donc à ce niveau-là, il n'y a déjà pas.
Il n'y a pas de concurrence, ouais.
Il n'y a pas de concurrence. À l'autre niveau, qui est des emojis, ou que moi j'appelle émoticônes, qui servent à indiquer des émotions en accompagnant des énoncés. Là non plus, parce qu'en fait, elles relèvent tout simplement du même système que celui qu'on utilise à l'oral. Ce sont en fait des équivalents sémiotiques, des gestes, de l'intonation, qui accompagnent nos énoncés quand on communique à l'oral. Alors, puisqu'on ne dit pas qu'un sourire appauvrit notre langue à l'oral, il n'y a pas de raison de dire qu'un sourire en emoji appauvrit un énoncé écrit. Sont simplement deux systèmes qui interagissent en permanence dans notre communication depuis toujours et voilà, qui fonctionnent, dont on a trouvé un moyen, enfin qu'on a trouvé à faire fonctionner à l'écrit via chat, quoi.
André Gunther. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est tout à fait évident que c'est un enrichissement plutôt qu'un appauvrissement. Et en fait, on le comprend très bien quand on voit, comme l'explique Pierre Altet, que la fonction de l'emoji est une fonction d'accompagnement du langage. C'est un signe qui fonctionne avec du langage à côté. Alors, les jeux qui consistent à rédiger un texte entier, une phrase entière, uniquement en emoji, c'est amusant, c'est effectivement comme un rébus, mais c'est plutôt...
On s'expose à de gros...
C'est plutôt anecdotique, parce que, bien sûr, que comme l'image d'ailleurs, l'image aussi est un message qui est toujours ambigu et qui doit toujours être accompagné d'une légende, d'un titre...
Parce que là, l'ambiguïté, elle est très présente dans les emojis, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la possibilité de ne pas se faire comprendre.
Mais c'est leur force. L'ambiguïté d'une image, quand vous l'utilisez dans un contexte, par exemple, qui est interpersonnel et où les gens se connaissent bien, alors vous pouvez jouer avec ces signes, avec ces images, vous pouvez leur donner toute leur puissance évocatrice. Il y a par exemple ces fameux emojis qui sont utilisés pour leur connotation érotique. Vous parliez de la pêche tout à l'heure. Voilà, il y a d'autres...
Oui, c'était l'aubergine.
Exactement. Donc il y a beaucoup d'inventivité de la part des usagers pour effectivement s'approprier ces éléments de langage et jouer sur leur ambiguïté pour leur donner des sens nouveaux.
Vous aviez, dans votre dernier livre, André Gunter, parlé de l'image conversationnelle. Est-ce que vous diriez que... Alors, ça concernait plutôt les photos et tout type d'images, mais est-ce que vous diriez que les emojis font partie... D'abord, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous entendiez par là, et est-ce que ça en fait partie?
Oui, absolument. Tout ça, c'est un nouvel univers de conversation, un nouvel univers linguistique augmenté, hein, où, effectivement, en particulier, l'image est venue... ajouter de nouveaux degrés de signification. Alors des images qui peuvent être soit intervenir à l'intérieur des phrases, à l'intérieur du langage, comme les émoticônes, les émojis, ou d'autres formes d'ajout que sont par exemple l'emploi des photographies quand elles sont par exemple faites instantanément sur votre smartphone, que vous l'envoyez en direct à votre interlocuteur. Et on a aujourd'hui avec une application comme Snapchat un exemple absolument fantastique, extrêmement riche, très intéressant de combinaison de tous ces niveaux. Donc sur Snapchat, vous avez du langage, de la photo, des photos trafiquées, de l'hybridation et des émojis, bien sûr. Hein, donc on a tout ça et les jeunes font aujourd'hui de nouvelles phrases qui étonneront beaucoup les interprètes du futur.
Vous disiez tout à l'heure, Virginie Bégeau, que l'émoticône, c'est une traduction finalement d'un signe par votre ordinateur. Et quel que soit votre ordinateur, quel que soit votre smartphone, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, ça, vous allez pouvoir avoir l'image qui apparaît. Mais ce n'est pas toujours les mêmes images, évidemment, ce qui peut aussi parfois induire en erreur. Et surtout, est-ce que les images sont vraiment universelles? Est-ce qu'elles veulent vraiment dire la même chose partout, Ludovic Houplin, vous qui avez eu justement à travailler ces images pour un pays comme la Chine? Est-ce que vous avez découvert des images que nous, on n'utilise pas du tout? Est-ce que vous avez découvert que des images qui nous paraissent tout à fait évidentes ont un autre sens là-bas? Est-ce qu'ils pourraient évidemment poser problème?
Moi, j'ai surtout vu qu'ils n'avaient pas les mêmes émoticônes que nous. C'est-à-dire qu'en eux, ils ont vraiment deux personnages qui ressortent. Clairement, c'est un pingouin et une sorte de lapin crétin, en fait, qui sont vraiment particuliers. Moi, j'en connais pas forcément le sens. On l'utilise pas du tout en Europe. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a différentes cultures, mais on met pas, on n'a pas un best-of identique dans l'utilisation, en fait. Et voilà, c'est...
Virginie Bégeau, c'est peut-être aussi que parfois il n'y a pas de sens tout simplement, ça peut être juste un petit sticker ce qu'on met comme ça en fin de message.
Oui, tout à fait, je pense que nous on a un petit peu moins la culture des stickers. Après sur les emojis, il y a un rapport qui avait été intéressant qui est fait par Instagram, qui compare les pays qui utilisent, quel est l'emoji le plus utilisé dans les pays. Et c'est assez rigolo parce que ça fait ressortir que par exemple la France est le seul pays qui utilise le cœur en premier, alors que tout le monde utilise des smileys, des émotions. Il y a
c'est
pas mal
de
clichés, voilà, exactement.
Comme quoi les clichés se retrouvent dans les émoticônes, c'est vraiment, ça paraît tout à fait logique. J'ai vu aussi que la France utilisait beaucoup le petit clin d'œil, plus que les autres pays.
Et puis, effectivement, il y a des problèmes de compréhension, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'en fait, comme les émojis dépendent de plusieurs créateurs d'images, donc il y a Apple qui a son propre set d'émojis, il y a Google, etc. On peut avoir pas mal de problèmes de comptabilité qui sont un petit peu dérangeants. Donc, si on envoie par exemple un cœur jaune sur Apple, ça va se retrouver en cœur avec des poils sur un Android, ce qui n'est pas du tout le même message envoyé.
Non, c'est donc, sûr. Même si j'avoue que je ne comprends pas le message, mais j'imagine que ça ne peut pas dire la même chose.
Le cœur n'est pas très joli, donc je ne sais pas si on peut vraiment bien le recevoir. Donc c'est sûr qu'il y a des problèmes parce que c'est des images qui sont propriétaires, qui sont copyrightées, etc. Il y a des problèmes de conversation entre les mobiles différents, les ordinateurs différents, etc.
Pierre Altet, au-delà de ce problème technique, est-ce qu'il y a un problème aussi de sens? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est face à un langage universel? C'est un peu le fantasme qu'on a avec ces signes, ces émojis. On se dit, bah tiens, peut-être qu'on a trouvé notre espéranto.
Encore une fois, je distinguerai vraiment ce qu'on peut faire avec les emojis de ce qu'on peut faire avec nos langues verbales. Hein. Donc il y a beaucoup moins de possibilités, c'est une première chose. Ensuite, sur l'universalité, pareil, je pense qu'il faut être très prudent, c'est-à-dire que certes, il est beaucoup plus facile d'interpréter a priori des images, donc des signes iconiques, que des langues, parce que notre perception visuelle, on peut considérer qu'on partage à travers le monde tous la même, et donc on va tous reconnaître un visage. Mais il faut faire très attention, parce que culturellement, les interprétations des images peuvent différer d'une culture à l'autre, d'une civilisation à l'autre. Donc moi, je pense que c'est un langage, en tout cas, plus facilement compréhensible que les langues, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il est pour autant universel? J'en suis pas sûr, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes rapports aux images, ni même la même façon de les saisir. Hein. Donc voilà, je resterai prudent par rapport à cette notion de langage.
D'universalité, de langage universel, mais parfois même, il est difficile de se comprendre entre hommes et femmes. Manifestement, c'est une source inépuisable pour les humoristes. Je vous propose d'écouter ce sketch de la télé québécoise.
On a vraiment passé un beau week-end. Il me plaît beaucoup, beaucoup.
Je pense que je vais texter un petit cœur.
Non, il est trop tôt pour un petit cœur. Texte-t-il un bonhomme sourire.
Ouais, c'est un peu impersonnel. Ah. Je sais, je vais texter un petit ballon rouge.
Oui! C'est sympathique, ça y ressemble.
What the fuck, c'est quoi ça?
Ballon.
Ça veut dire quoi?
Je suis dessus, moi. Envoie-y une ballon toi aussi.
Oh, il m'a retexté un ballon rouge. Oh my god, he gets me. Ah! Ok, je vais texter un ananas.
Nanana? Fuck, qu'est-ce que c'est ça? Je réponds quoi?
Je suis dessus, moi. Vas-y, caca qui sourit pis drapeau du Japon.
Oh, un caca qui sourit pis le drapeau du Japon. Mais là, c'est bien lui, ça. Parce que la semaine passée, on est allé marcher dans un parc pis il y avait une crotte de chien et méditation. J'ai souri. Mais comme j'ai eu peur de piler dans le caca mais que j'ai adoré notre repas, je vais lui texter un caca qui sourit, un fantôme, un cœur, le drapeau du Japon et une fourchette.
Mais voyons! De la merde d'un fantôme, un cœur, un drapeau pis une fourchette, c'est quoi son esti de problème?
Mais c'est une crise d'affolement, n'importe quoi.
Crocodile, parapluie, blé d'Inde. Tiens!
On va savoir c'est qui le boss.
Oh non, crocodile, parapluie, blé d'Inde. Je savais que sa mère était malade, là, mais pas à ce point-là.
Oh, c'est tellement injuste, la vie. Parle-lui avec ton cœur. Dis-lui, fasse qu'il pleure, poule bicyclette qu'on amuse.
Oh! Ça veut-tu dire qu'elle est en crise? Je comprends rien!
Voilà, les comiques québécois, like moi, on peut trouver ça sur Internet. Et ça dure comme ça un petit peu plus longtemps, les uns les autres, sur cette, cette place qu'ont pris les émojis, ce langage un peu incertain aujourd'hui. Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'intéressant, par exemple, pour vous, André Gunther, qui étudiez l'histoire des images? Ça vous paraît quelque chose de complètement nouveau, de qui est propre à notre époque numérique?
Alors, encore une fois, nouveau, pas tout à fait, dans le sens où, effectivement, c'est une adaptation d'un langage gestuel, mais nouveau dans le sens où ce qui est vraiment très intéressant, c'est de constater que cette expansion vers l'image, elle se fait au sein de l'écrit. C'est-à-dire que le triomphe de l'émoji, pour moi, c'est pas un triomphe du visuel, c'est un triomphe de l'écrit. C'est-à-dire qu'on reste dans un domaine qui est celui de l'alphabet, même si c'est pas tout à fait comme un alphabet, c'est un langage d'accompagnement. Mais c'est de l'écrit, c'est de la correspondance. Alors c'est une correspondance qui est devenue visuelle. Il faut quand même se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ans, on imaginait qu'on allait se parler, que notre communication allait être uniquement passée par la vidéo, par Skype, par des outils de transmission immédiat de la communication naturelle. Or, l'essor, pas seulement de l'emoji, mais du SMS, du texto et de tous ces messages asymétriques, des messages qu'on envoie et que que le dessinateur lit quand il peut et ou quand il veut. Hein. Et si vous regardez aujourd'hui, les jeunes ne savent plus se servir d'un téléphone. Hein, les adolescents, c'est-à-dire la communication en direct, ça ne marche plus du tout.
Ah bah non, mais là, moi, mes enfants, ils utilisent tous des SMS, mais parce que ça coûte zéro.
Ils utilisent la communication asymétrique.
Voilà. Oui, mais ils utilisent ça parce que et tous les jeunes aussi.
Et dans la communication asymétrique, il y a de l'image. On mélange du langage et de l'image. Voilà, je crois que c'est vrai. L'idée du mélange, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus descriptif de cette nouvelle forme.
Mais est-ce qu'ils utilisent encore des émoticônes, ce que j'ai pu lire en préparant cette émission, que justement, comme les émoticônes c'était, on va dire, démocratisé, et que les parents les utilisent aussi, ils sont revenus. Par exemple, à des onomatopées, ils mettent pas le petit bonhomme qui rigole, ils mettent ha ha ha, par exemple. Je dis il parce que voilà, malheureusement, je n'appartiens plus à cette catégorie d'âge. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même des allers-retours, des questions de mode, et évidemment. Qu'est-ce qui décide, parce qu'il y a bien, on en a parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui décide, Virginie Béjot, des émoticônes? J'ai lu qu'il y avait un fameux consortium Unicode qui avait un peu la haute main. Il y a évidemment ce que vous disiez, les combats entre Facebook, Apple et Google, hein, puisqu'ils sont un peu les mastodontes, puisqu'ils dominent à la fois tous les réseaux sociaux et évidemment tous les moyens de communiquer. Mais il y a ce consortium Unicode, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'ils font?
Alors c'est assez amusant parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup d'enjeux politiques et culturels au sein de la création des emojis. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui dessinent leurs propres emojis. Donc il y a Apple, il y a Microsoft, il y a Facebook, il y a Messenger, Twitter, etc., qui sont tous payants sauf une initiative gratuite. Et en fait, pour avoir son emoji, son propre emoji, donc n'importe, il y a une espèce de fantasme un peu très démocratique où chacun peut soumettre son emoji. Donc on voit aussi pas mal de déplacements dans la soumission d'emoji. C'est assez intéressant de voir que chacun essaie de s'approprier un peu l'emoji. Il y a l'emoji chapelet qui est passé pour représenter la chrétienté. Il y a l'emoji tacos qui était une grosse bataille des Américains qui ont fait une énorme pétition pour faire passer l'emoji tacos. Parce que comme les emojis sont à l'origine japonais, on a beaucoup de significations.
Sushi, bento.
Voilà, plein de trucs assez finalement assez étranges pour nous. Et du coup, ça pose un peu la question de qu'est-ce que la nourriture, si c'est représenté que comme ça, on ne s'en pas représenté. Nous, on n'a toujours pas l'emoji baguette, par exemple.
Sachant que j'ai vu que pour ne pas créer de confusion, par exemple, si vous voulez faire un emoji cassoulet, ça ne va pas être possible. On vous dit qu'il faut utiliser l'emoji bol de nouilles parce voilà. Que c'est, voilà, c'est, on reconnaît un bol avec un plat à l'intérieur et donc ça fait le cassoulet.
Mais c'est sûr que du coup, c'est une petite victoire du riz sur le cassoulet. Et en fait, donc, tout le monde peut soumettre son emoji. Ensuite, il y a le consortium Unicode qui se réunit pour en décider. Et le consortium Unicode, c'est celui qui établit, c'est une organisation privée à but non lucratif, qui établit tous les standards du web. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, c'est privé et les membres du consortium Unicode sont Apple, Microsoft, Facebook, IBM, etc. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de démocratie derrière. Et une fois que... donc ils se réunissent autour d'une table tous les deux ans à peu près.
L'icône cassoulet a peu de chance.
Exactement. Et ils choisissent les emojis qui vont faire rentrer dans ces caractères Unicode. Ensuite, libre à chacun des acteurs qui dessinent les emojis, donc libre à Apple de l'intégrer ou pas. Et c'est là que les choix sont assez intéressants, parce que là, il y a une grosse polémique parce qu'Apple a intégré les emojis d'une femme voilée. Il y avait aussi une polémique où Apple avait décidé... Donc le revolver, c'est un emoji qui est représenté chez Microsoft, chez Android, etc. Mais Apple a décidé de le remplacer graphiquement par un pistolet à eau. Donc c'est un peu une décision très politique d'Apple qui avait fait pas mal parler de lui à l'époque, parce que il y a quand même
National Rifle Association n'a pas dû apprécier, voilà, aux États-Unis. Tout, ouais. Ouais.
Et c'est là qu'on voit que c'est quand même finalement Apple qui décide ce qu'on va voir. Avec, bah, par exemple, chez Apple, un téléphone, c'est un iPhone. Chez Apple, la représentation de la musique, c'est un écouteur blanc.
Donc, oui, c'est vrai que forcément, il y a des évidemment enjeux des enjeux politiques, des enjeux économiques et des enjeux politiques qu'on a vu surgir récemment. Vous avez parlé de cet emoji avec une femme portant le hijab qui a été imaginé après une campagne lancée par une lycéenne saoudienne, voilà, qui ne se sentait pas représentée. Il y a eu d'autres polémiques quand Apple a créé des nouveaux emojis où on peut envoyer, par exemple, si vous envoyez un jeune homme ou une jeune fille, vous pouvez choisir la couleur de peau, la couleur des cheveux, mais il n'y avait pas de roue. Alors voilà, ça devrait changer d'ici peu, car certains s'en sont émus, évidemment. Est-ce que les émoticônes, les emojis, Pierre Alté, vous allez m'excuser d'utiliser indistinctement les deux encore une fois, mais est-ce qu'ils sont devenus politiquement corrects, ou en tout cas le reflet d'une société politiquement correcte?
Alors là, vous m'en demandez un petit peu trop, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas sociologue, ni ni politiste. Je suis linguiste. Maintenant, effectivement, enfin, mon opinion personnelle là-dessus, si je dois la donner, c'est effectivement qu'on tend à, avec les emojis, à refléter les problématiques de la société, tout simplement, et le politiquement correct en fait partie. Donc, évidemment, toute minorité qui se sent brimée a envie que d'être représentée, d'avoir sa propre emoji, et ça me paraît tout à fait normal et logique que se retrouve dans ces formes-là, voilà les problèmes.
Les problématiques de la société. Vous n'êtes pas non plus sociologue, Ludovic Houplin, mais j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que cette simplification finalement du langage, ces images exacerbent un petit peu ce qui est aussi une tendance d'une évolution de notre société vers le politiquement correct? Tout le monde doit être représenté.
Ah oui, après ça, oui, en fait, ça, je pense que le panel s'agrandit sur un iPhone. On a vu de l'iPhone 1 à l'iPhone 7. Avant, on faisait 2 slides sur le côté. Maintenant, il faut en faire 10 pour aller chercher quelque chose. Mais en soi, oui, moi, je pense que c'est relativement très correct. Mais après, c'est justement le travail, je pense, des artistes, des graphistes, de n'importe qui, en fait, de les détourner pour leur donner un autre sens, en fait. Et c'est, tout à l'heure, on parlait du mélange entre les mots, les émoticônes, des gens qui jouent différemment sur leur téléphone. En fait, il y a un côté gros remix. En fait, on a l'impression que ce qui se passe dans un téléphone, c'est ce qui s'est passé dans la musique il y a 10 ans. Et en fait, je pense que justement, il y a un mix entre l'image, les mots, les émoticônes et tout. Et que, a priori, bien sûr que Apple, IBM et tous, ils vont nous faire des émoticônes hyper consensuels qui vont plaire à tout le monde, surtout pas prendre de risques. Il y a sûrement des boards et des gens et des panels qui vont juger si c'est bien, si on va pas pour pas. Parce que c'est trop.
Oui, bah, à tel point que Apple avait changé la pêche qui évoquait une paire de fesses. Il l'avait changé pour que ça soit un peu moins évocateur. Une grosse mobilisation. La pêche est redevenue évocatrice, André Gunther. Pas sur la pêche, hein, mais sur cette. qui ressemble vachement à un abricot, quand même, il faut bien le dire.
Non, mais je trouve aussi que, comme le disait Virginie, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que l'emoji, c'est un univers fermé, et c'est un univers qui est aussi fermé par les appareils. C'est un univers qui s'utilise essentiellement sur un smartphone. Hors du smartphone, point de salut. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on peut se souvenir que l'émoticône, donc enfin les groupes de lettres typographiques pour dessiner des petits smileys, c'était plus poétique, plus inventif et plus ouvert. Parce que un smiley typographique, vous pouvez le faire même avec un stylo et une feuille de papier. Vous pouvez le faire quel que soit l'environnement graphique, technologique que vous avez. Donc, par rapport à ça, les émojis qui ont paru être une avancée sur le plan visuel, sur le plan, disons, de la séduction iconique, sont quand même quelque part une régression d'un point de vue, disons, de l'expressivité, justement, ce qui est un peu paradoxal.
On peut aussi utiliser les émoticônes dans un clip pour souligner les paroles. C'est ce que nous propose Katy Perry. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing. So I fell for everything. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger. The fire, dancing through the fire. Cause I am the champion. And you're gonna hear me roar louder. Louder than a lion. Cause I am the champion. And you're gonna hear me roar. Roar de Katy Perry. Vous pouvez trouver la traduction des paroles sur internet en emoji. C'est pour ça que nous avons passé, outre la qualité évidemment musicale de ce titre, que nous l'avons passé ce soir dans Du Grain à Moudre d'été. Parlez-vous émoticône? C'est la question qu'on pose à nos 4 invités. Virginie Béjot, qui est chef de projet web à la direction du développement numérique d'Arte France. André Gunther, maître de conférence en histoire visuelle à l'EHESS. Pierre Altec, qui est à Terre, à l'université de Tours, docteur en sciences du langage. Et enfin, Ludovic Houplin, fondateur du studio de création H5. Alors peut-être pour les quelques minutes qui nous restent, on l'a effleuré, mais il y a un enjeu économique énorme, évidemment, autour de ces questions-là. Il y a un business qui s'est monté, Virginie Béjot. On a vu, puisqu'on était, on écoutait Katy Perry, on a vu Kim Kardashian, par exemple, lancer sa propre ligne d'émoticônes. On a vu Karl Lagerfeld faire de même, non pas une ligne de vêtements, mais une ligne d'émoticônes. Comment interpréter cela ? Est-ce que c'est vraiment un business aussi juteux que ça ?
Alors, pour Kim Kardashian, oui. Ça a très bien fonctionné parce qu'en fait, elle a bien compris qu'il y avait une tendance d'utilisation des emojis pour envoyer des sextos et des messages un peu érotiques et qui manquait, malgré la pêche et l'aubergine, qui manquait un petit peu ce genre de messages. Après, il y a beaucoup d'autres marques qui ont essayé. Il y a Ikea, par exemple, qui a essayé un peu maladroitement de lancer son set d'emojis, mais qui ne sont pas vraiment des emojis puisque effectivement c'est des images. Et en fait, là, c'était catastrophique parce qu'ils montraient que des meubles. Donc, les gens n'allaient pas forcément s'envoyer des meubles entre eux. Et en plus, quand on les mettait dans les SMS, c'était tellement lourd que ça devenait des MMS. Et du coup, les gens payaient leur texto très cher. Donc, fiasco. Et ensuite... C'est vraiment un enjeu économique. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du tacos. La pétition a été lancée par Taco Bell aux États-Unis.
Qui est une chaîne de fast-food.
Et voilà. Et donc, eux, ça a été un énorme coup de com' pour eux. C'est aussi, finalement, montrer le tacos tout le temps. Si vous envoyez des émojis du style « on va dîner ce soir » et que vous voyez un tacos, bah, peut-être que vous aurez envie d'en manger un. Donc, il y a aussi un enjeu peut-être de soft power... au sein même des émojis.
Ça parle au publicitaire que vous êtes, Ludovic Houplin.
Non, justement, je pensais exactement à ça. Je me suis dit, c'est bizarre qu'il n'y ait pas des bouteilles de coca. Ils ont mis le vin rouge à la fois, hein, donc on peut...
Oui, mais ce n'est pas une marque, hein, vous voyez.
Non, c'est vrai, ce n'est pas une marque. Mais y a forcément des applications. Après, ça dépend. Le problème, c'est que c'est quand même verrouillé par les vendeurs de téléphones et consortiums. Donc, mais je ne sais même pas comment on peut télécharger.
Vous pouvez télécharger.
Non, mais pour les mettre et les activer
en fait,
dans son clavier.
Si vous voulez, en Asie, c'est plus simple parce qu'on peut acheter des stickers au sein même de l'application. Mmh. Donc, ils sont déjà prévus. C'est assez simple. Il y a aussi l'application Telegram qui permet de le faire.
Non, mais ça, c'est sur WeChat.
Sur Line, sur Telegram.
Voilà, ça devient très, très technique, hein,
WeChat, c'est le best-of chinois.
C'est toutes les plateformes de messagerie asiatiques. Alors qu'en France et en Europe, c'est vrai qu'on a moins de possibilités de... C'est plus lourd, en fait, le fait d'acheter des emojis pour les envoyer. C'est un petit peu plus compliqué.
On fait avec ce qu'on a manifestement, voilà. André Gunther, en la matière. Est-ce qu'on a une palette suffisante ?
Alors, je pense que la palette, elle s'est déjà étendue très sensiblement en un très court espace de temps. Et sur un plan technique, c'est à peu près certain qu'on va vers ce que décrivait Virginie, c'est-à-dire une intégration polymorphe, c'est-à-dire de n'importe quel type d'image à l'intérieur d'un système de communication. C'est pas très compliqué à faire. Donc on aura de plus en plus d'images et forcément des choses qui vont devenir très très variées. Mais après, c'est l'usage qui trie. Hein, Et c'est quand même pas tout à fait un hasard que le premier bloc d'émojis reste celui des visages expressifs et que voilà dans l'histoire de ce nouveau langage le mot smiley était quand même donc le sourire, hein, c'est ce mode d'expression y compris enfantin, voilà, la première chose que fait un bébé c'est de sourire, donc les usages vont trier.
Mon expérience prouve que c'est plutôt de pleurer, hein, la première chose que fait un bébé.
Mais d'ailleurs vous aurez noté que le pleur du bébé est qui est donc justement comme un emoji, hein, c'est-à-dire un accompagnement d'un langage, sauf que le bébé lui n'a pas le langage et c'est tout le problème. C'est pour ça qu'on comprend pas le bébé. Il pleure, mais est-ce qu'il a froid, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a soif? Et c'est exactement la discussion sur l'ambiguïté des emojis. Hein, c'est-à-dire
pas de bébé qui pleure dans les emojis. Vous devez mettre un smiley qui pleure avec un bébé.
Ouais.
Et voilà pour être complet sur cette question-là. Mais ça montre bien une dernière chose, Pierre Altet, l'importance des émotions. Vous disiez finalement je suis perdu entre émoticône et emoji. Mais bref, ça sert à indiquer une intention, une émotion. Est-ce que c'est aussi un signe que voilà, on donne une importance particulière aujourd'hui à nos émotions, on les met en avant, on se met en scène et dans ces échanges direct, et c'est pour ça que les émoticônes prennent tant de place.
Alors, si vous le permettez, j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur les enjeux économiques.
Oui, bien sûr.
Très rapidement, il y en a un auquel on pense pas et qui nous touche, nous, en tant que linguistes. c'est qu'avec les emojis, on a justement accès, puisque ce sont des signes qui apparaissent en contexte numérique, à des corpus numériques dans lesquels on va pouvoir repérer automatiquement des marques dont la fonction spécifique est d'indiquer les émotions des locuteurs. Et ça, d'un point de vue marketing, c'est évidemment très puissant, puisque ça permet de faire des enquêtes sur les opinions exprimées à propos d'un sujet donné. Et puis, ça peut aussi, pour nous, chercheurs, participer à la reconnaissance automatique de phénomènes un peu plus complexes, comme l'expression de l'ironie, l'expression de l'empathie, etc. Donc voilà, parenthèse fermée. Pour revenir sur les émotions et leur importance, alors je pense moi que c'est pas non plus quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans notre communication des signes qui ont eu pour fonction spécifique d'indiquer les émotions des locuteurs. Je pense notamment aux interjections dont vous avez un petit peu parlé, aux onomatopées, mais aussi d'autres marques comme certains adverbes qui en fait fonctionnent d'un point de vue sémiotique, même si elles ne sont pas iconiques, presque comme les émoticônes. Donc cette place de l'émotivité et de la subjectivité en général dans notre communication, elle a toujours été très importante. Seulement, évidemment, elle se voit moins à l'écrit quand on reste dans le verbal, mais tout de même, il y a des marques verbales qui permettent de le faire.
Sauf que là, avec les émoticônes, il y a une chose particulière, c'est qu'ils sont... alors, ils ne sont pas tous positifs, mais ceux qui sont utilisés, c'est majoritairement... ils renvoient majoritairement un imaginaire positif.
Complètement. Mais alors ça, il y a quelques études là-dessus qui ont été faites. Et effectivement, il s'avère que, par exemple, sur des grands corpus de SMS, on trouve beaucoup plus d'émoticônes positives que d'émoticônes négatives. Il semble que, pour des raisons certainement sociologiques, on préfère se présenter toujours sur les réseaux sociaux sous un jour positif. Et la plainte...
Oui, parce que c'est vraiment une façon de se présenter, évidemment, aussi, les émoticônes. C'est de soi qu'on parle quand on envoie un émoticône, André Gonter.
Ça dépend à qui. Ça dépend, mais oui. C'est, encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure. Vous n'utilisez pas ces adjuvants visuels dans n'importe quel contexte. En particulier, vous les utilisez beaucoup moins dans des contextes officiels, administratifs ou de travail. En revanche, où est-ce qu'on utilise le plus l'émoji, là en l'occurrence, c'est sur les messageries. C'est dans l'échange privé intime. L'émotion, bien sûr qu'elle est là, mais elle est là parce que l'usage de ces images est fait dans un contexte bien particulier. Alors moi, ce qui me frappe au fond, finalement, c'est pas tellement qu'on utilise des messages à caractère émotionnel dans un contexte privé. Ce qui arrive aujourd'hui avec cette invasion de petites icônes, c'est la visibilité de l'espace privé. C'est ce qui s'est passé aussi avec Facebook, avec les réseaux sociaux. On a aujourd'hui une visibilité de la correspondance privée, j'ai envie de dire, en simplifiant bien sûr, qui est infiniment supérieure à ce qu'elle a été dans l'histoire. Hein. Voilà, quand on hésitait la correspondance de Sévigné, c'était ce même type d'intrusion. Mais là, voilà, l'espace privé a pris et sur le devant de la scène. C'est ça qui est tout à fait nouveau et qu'il faut essayer de comprendre et d'expliquer.
Eh bien, merci. On a tenté de le faire un petit peu ce soir. Merci Virginie Béjot, André Gunter, Pierre Alté et Ludovic Houplin d'avoir participé à cette émission. Il me reste à vous envoyer quelques émojis, lunettes de soleil, cœur, plage et parasol, peut-être même une petite licorne. Tiens, vous l'avez bien mérité car dès la semaine prochaine, c'est Mélanie Chalandon qui sera à ma place pour tout le mois d'août. Un immense merci à toute l'équipe qui m'a aidé chaque jour à penser, à préparer cette émission. Certains restent, je penserai à vous au bord de la piscine. Merci donc à Pierre Barberousse-Testard, Daphné Chouquet-Abgral, Camille Trobien-Ferret, Cédric Donne-Fuentes et Juliette la discrète Montilly. À la réalisation ce soir, c'était Anne de Pelchin et à la prise de son, Anthony Thomasson.